Chapitre 7 Kiensky de Kiev. À une demi-verste environ de l'église de Saint-Andréa, Malcolmey arrêta sa monture et mit pied à terre. Il était las de cette traversée sous le soleil implacable de la steppe, si monotone malgré la richesse des moissons et l'éclat des niels et des genêts. Laissant son cheval en liberté, il alluma un cigare et monta sur le talus pour voir la vallée du Dniepr. Le fleuve majestueusement coulait à sa droite. Devant lui, au bas d'une longue route sinueuse et raide, se trouvait le quartier de Podol. Enfin, à l'horizon, le groupe confus des maisons somptueuses ou misérables, les toits étagés sur les collines, et, disparaissant à demi sous les arbres, la frange ajourée du clocher de l'étincelante coupole de Kiev. On était au mois de juin 1914, et Messeret, ingénieur-chef de l'Ukraine, All-American Company, considérant les deux mains dans ses poches la beauté incontestable de la ville, se prit à envier le sort de ses habitants. Ce jour-là était le troisième d'une de ces fêtes locales, tant appréciées par le peuple russe. Il n'y avait donc pas un travailleur au champ. Dans la tranquillité de la campagne, un homme apparut cependant. Revêtu d'une peau de mouton, en dépit de la température accablante, et poussant devant lui un âne chargé, il gravissait la côte d'un pas rapide. Arrivé auprès de Malcolm, il s'arrêta, prit une cigarette dans la poche intérieure de son manteau et dit gaiement « Dieu vous garde, petit père !»« Dieu vous garde, petit homme !» Le nouveau venu était un jeune garçon de bonne mine, à la face large, épanouie, aux sourcils noirs rapprochés. C'était le type du paysan loquace et bon enfant. « Je m'appelle Gleb, dit-il, et je viens du village de Potenkoï, où mon père a 7 vaches et 1 taureau. Irez-vous aujourd'hui jusqu'à l'autre ville, Spoda ?»« Oui, sans doute. »« Oh, dans ce cas, vous ferez bien de ne pas passer par la rue de Black Mad. » Ne recevant pas de réponse, il continua. « Vous pouvez vous fier à la sagesse de mon avertissement. »« Parfait, petit frère, » dit Malcolm en souriant. « Alors pourquoi donc dois-je éviter la rue de Backmarle ?» L'homme eut un rire silencieux. « C'est à cause d'Israël Kensky. Je pense que vous avez entendu parler de lui. Tout le monde le connaît à 50 lieues à la ronde. » Malcolm se souvint brusquement qui n'avait pas revu le vieillard depuis son départ de Londres. « Mais que lui reproche-t-on » demanda-t-il, ayant remarqué de l'animosité dans le ton de Gleb. « Aujourd'hui, je crois qu'on va lui faire un mauvais parti, à moins que le grand-duc n'envoie ses soldats pour contenir le peuple, ou que la grande-duchesse n'intercède une fois de plus en sa faveur. Ils ont donc une raison spéciale de s'attaquer à ce pauvre homme ?» « Oh, Spodar, » dit le paysan, très solennel, « Kleski possède un livre magique. »« Oh, les imbéciles le prétendent, du moins. »« Mais on l'a vu, Excellence, sa fille unique, Sophia, qui a été baptisée dans la foi chrétienne, en a parlé elle-même à l'archevêque. »« Vous savez donc pas, Spodar, que ce livre contient le secret de la magie noire ?» C'est là-dedans qu'Israël Kensky apprend à tourmenter les chrétiens et à se venger de ses ennemis. Malcolm sauta au bas du talus avec ce petit rire moitié moqueur, moitié amer. Il se trouvait une fois de plus devant la superstition têtue du paysan russe, qu'il était toujours, en vain du reste, efforcé de combattre. À cet instant, on entendit un bruit de galop et une amazone déboucha au tournant de la route, se dirigeant vers la ville. Elle était en livrée vert et or. Comme l'âne accourut à l'appel de Gleb, s'était plantée en travers du chemin, elle s'arrêta net et appela son écuyer. Ce dernier s'avança. « Écarte donc ta bourrique, coquin » gronda-t-il d'une voix de basse profonde. Il était grand, large, entièrement rasé, avec des cheveux roux et un nez bizarrement tordu, qui attira l'attention de Malcolm, spectateur nonchalant de la scène. Quant à Gleb, il avait joint les mains et la tête baissée dans une humble posture, il ne bougeait pas plus qu'une borne. La monture de la jeune fille se mit à donner quelques signes de nervosité. « Doucement, doucement !» lui dit-elle en anglais. Voyant que ni Gleb ni l'âne ne voulaient sortir de leur immobilité, Malcolm alla prendre l'animal par la bride et l'amena non sans résistance au bord du talus. L'Amazone était à deux pas de lui, il put la voir à son aise. C'était une ravissante personne. Mais ce qui le frappa surtout, ce fut l'extraordinaire charme féminin qui enveloppait l'inconnu comme une aurore. Elle, pour sa part, ne vit en lui qu'un banal passant, grand, maigre, bruni par le soleil, habillé avec de vieux vêtements et coiffé d'un chapeau déformé. Sous la mèche de cheveux irrégulière, elle remarqua cependant ses yeux, remplis de respect admiratif sans doute, mais qui devaient contenir un temps ordinaire infiniment d'esprit et de gaieté. Au moment où elle allait passer, son cheval se cabra et serait retombé sur Malcolm si ce dernier n'avait pas sauté en arrière, mais un petit cri de l'Amazone le fit s'élancer de nouveau. Elle chancelait et il n'eut que le temps d'étendre ses bras pour la recevoir. Elle se dégagea doucement, se mit debout, les pommettes un peu rouges, et une lueur malicieuse passa dans son regard. « Oh, je vous remercie, » dit-elle, « j'ai sottement perdu l'équilibre. Voulez-vous tenir la tête de mon cheval, je vous prie ?» Légèrement, elle sauta en selle, s'inclina avec un peu de fierté et partit au galop. Elle avait descendu la colline avant que Malcolm, interdit, fût revenu de son émoi. Gleb était toujours statufié comme en extase. « Alors, réveille-toi, espèce de singe !» dit Malcolm d'un ton bourru. « Tu aurais bien pu tenir la bride du cheval pour que j'aide cette dame à se remettre en selle. »« Mais c'est défendu, petit père !» répondit le paysan d'une voix rauque. « Elle est casium et de la propriété du tsar. »« Du tsar !» Il avait vécu assez longtemps en Russie pour savoir ce que ce nom inspirait de crainte et de révérence. « Mais petit maître, c'était sa magnificence, la grande duchesse Yaroslav !» Et Gleb s'enfuit, laissant le jeune ingénieur atterré. C'était la grande duchesse et il ne l'avait pas reconnue. Il l'avait tenue dans ses bras. Oh, la réalité dépassait le rêve. Au bout de quelques minutes, pensif, il remonta à cheval et continua son chemin. Kiev bâtit sur plusieurs collines est la ville de l'Europe qui possède les routes les plus raides. Comme le promeneur voulait se rendre au grand hôtel, il avait encore à traverser Podol. Les rues de Podol lui parurent étrangement désertes pour un jour de fête. Il croisait seulement quelques vieux et quelques vieilles en costume de gala. Arrivé au quartier des Juifs, le plus pauvre, il avait oublié le conseil de Gleb et il ne s'en souvint qu'en approchant de la rue de Blackmoud, où l'on entendait une grande rumeur. Bientôt, il put voir l'énorme affluence qui poussait ces clameurs menaçantes. Elle se dirigeait vers le portail d'une haute et laide maison appartenant au riche marchand Kensky. Le rassemblement grossissait de minute en minute. Les femmes criaient « À mort le juif, à mort !» Les hommes brandissaient des cannes, montraient le poing. Mosterey, connaissant les scènes d'excitation religieuse fréquentes à Kiev, se rangea le long du trottoir pour laisser passer la harde, s'étonnant sèchement et seulement de voir tant de popes à barbe noire prendre part à cet acte de persécution. Il remarqua aussi parmi les rumeneurs les plus acharnés un grand diable en livrée vert et or qui s'efforçait d'entraîner les hésitants. Tout à coup, son cœur s'arrêta de battre. Par-dessus les têtes noires pressées, il venait d'apercevoir une main blanche levée en signe de commandement ou d'appel. D'un coup d'éperon, il lança son cheval parmi les manifestants, les entrevoyant rouler à droite et à gauche pour tâcher d'atteindre l'espace vide devant le portail de Kensky où se tenaient les deux principaux acteurs du drame. Des mains sales s'accrochaient à ses genoux, une pierre siffla à ses oreilles. Furieux de tant d'audace, le peuple lançait des imprécations sur son passage, mais il continua à avancer. Alors il vit la grande duchesse debout face à la foule, les bras étendus pour protéger un petit vieux à barbe blanche tapi derrière elle contre la grille et dont la figure ruisselait de sang. Une clé cassée dans le portail expliquait l'impossibilité de sa fuite. Malcolm sauta à terre et courant à la jeune fille que son apparition parut consternée. « Mais pourquoi êtes-vous venue ? » s'écria-t-elle haletante. « C'est fou, allez-vous-en !»« Mais vous, dit-il, oh, ils ne me feront pas de mal. C'est au pauvre vieux qu'ils en veulent. Pouvez-vous faire sauter la serrure et le faire rentrer chez lui ?» « Donne-nous le livre !» hurla une voix de basse dominant le tumulte, « on te laissera la vie !»« Altesse, faites-lui donner son livre !» Malcolm envoya un coup de pied dans la grille qui céda. Il la franchit, moitié traînant, moitié soutenant le malheureux, mais la porte de la maison était close. « Bon, votre clé, vite » demanda-t-il. Kensky mit ses doigts tremblants dans sa ceinture, tout en se dissimulant derrière le jeune homme, et celui-ci, dont l'attention pleine d'angoisse était absorbée par la grande duchesse, sentit tout à coup un objet lourd glisser dans la poche extérieure de sa veste, tandis qu'une voix étranglée murmurait à son oreille « Gardez-le, Ospodar, demain à midi, j'irai vous le reprendre au grand hôtel. » La foule houleuse avançait toujours et la jeune fille reculait maintenant devant cette formidable poussée. Dès que la porte fut ouverte, Kensky disparut dans la maison en criant « Venez, venez !» Malcolm fut d'un bond auprès d'Irène, cherchant à l'entraîner à l'intérieur. Mais une nouvelle circonstance changea la face des choses. Les clameurs des manifestants venaient de s'arrêter, remplacé par un claquement de sabots sur les mauvais pavés de la rue. Dans un éclair, Malcolm vit le chatoiement blanc et rouge des fanions, le vert bouteille des uniformes et l'acier des lances du peloton de Cosaques. Quelques instants plus tard, la populace avait disparu. Indifférents à l'invitation toujours plus pressante de Kensky, debout sur le seuil, le jeune homme et la jeune fille se regardèrent. « Vous avez été très brave, très imprudent, devrais-je dire, » remarqua la grande duchesse. « Vous ne connaissez pas le peuple de Kiev ?»« Pardon, non, je le connais, » dit-il d'un air sombre. « Je ne devrais pas vous blâmer, il est vrai, sur moi-même, j'ai un tort d'intervenir, car ils ont tué mon cheval. » « Mais où était votre domestique ?»« Allons-nous-en, » dit simplement Irène, feignant de ne pas entendre. « Il n'y a plus de danger. » Il allait la suivre, mais se souvenant du paquet qu'il avait dans sa poche, il se tourna vers le juif. « Tenez, dit-il, voici votre... »« Non, 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 gardez-le, » chuchota Israël. Qui sait s'ils ne reviendront pas ce soir? Ma fille leur a dit que je portais toujours sur moi. Mais quel est ce précieux objet? Un sourire entrouvrit la bouche édentée du juif. C'est le livre magique. Tous voudraient le posséder, Ospodar, depuis le grand-duc dans son palais jusqu'au moujik dans sa cabane. Mon livre est envié de tous, et si je vous le confie pour une nuit, c'est parce que vous êtes anglais. Veillez soigneusement sur ce dépôt, car il détient le secret du bonheur et des larmes. Vous y apprendrez le moyen de vous faire des esclaves, de vous attirer l'adoration des hommes et des femmes. Il contient même des recettes pour retrouver la beauté et la jeunesse. Masseret, interdit, ne trouva rien à répondre et s'en alla. Chapitre 8. Le grand-duc est aimable. Malcolm rejoignit la jeune fille dans la rue. « Voulez-vous venir avec moi jusqu'au palais de mon père ? » dit-elle. « Je crois qu'il n'est pas prudent pour vous de partir seul. » Un demi-cercle de cosaques les entourait maintenant, et le peu scrupuleux domestique, impassible, se tenait à la tête de son cheval. « Un des soldats se chargera de votre monture, » continua Irène. « Bulba, vous nous suivrez. » Sa voix était sévère et elle regarda l'homme bien en face. Il ne broncha pas. « Altesse, à vos ordres, » répondit-il simplement. Ils se mirent en marche, escortés à petite distance par les cosaques. Au bout d'un moment, la grande-duchesse reprit. « Que pensez-vous de la Russie maintenant, Mr. High ?» Il la regarda avec surprise. Vous ne m'avez pas reconnu tout à l'heure sur la colline, mais moi j'ai vite compris qui vous étiez. D'abord, il n'y a pas assez d'étrangers dans la région pour que votre présence soit ignorée du grand-duc. En outre, vous étiez à la réception que mon père a donnée l'année dernière. Mais j'ai pas vu votre Altesse et j'étais venu justement. Il s'arrêta confus. Vous ne pouviez pas me voir, répliqua-t-elle. « J'ai passé un an à Cambridge pour perfectionner mon anglais. »« Ah, c'est pourquoi vous le parlez si bien. »« Mieux que vous, le russe, c'est certain. »« Vous n'auriez pas dû dire « Uchos didalsi » aux gens qui vous entouraient dans la foule. »« Quand on emploie ce mot qu'en s'adressant aux mendiants, il n'était pas du tout flatté. » Malcolm se mit à rire. Je ne pouvais pas les prendre pour des grands seigneurs. Mais ne me direz-vous pas ce que faisait votre domestique dans ce tumulte? J'ai cru le voir et son attitude m'a donné de lui une opinion plutôt. À votre place, je ne chercherai pas à me faire d'opinion, dit-elle précipitamment. En Russie, nous ne nous cassons pas la tête pour ces choses-là. Il y eut quelques minutes de silence, puis gravement elle continua. Le peuple russe m'a toujours fait l'effet d'un fleuve de lave bouillante, roulant avec lenteur entre les digues trop fragiles que nous lui avons élevées. Je me demande quelquefois si ces digues ne crouleront pas un jour, répondit tranquillement Malcolm. Et dans ce cas, eh bien, cela mettra le feu à la Russie. C'est mon avis, hélas. Père pense que la guerre... Elle s'arrêta tout court. « La guerre ?» interrogea Malcolm d'un air de doute. Irène lui jeta un regard perçant. « Vous n'y croyez pas ?»« Oh, on l'a annoncé si souvent. »« Oh, je sais, » répliqua-t-elle avec un peu d'impatience. Mr. Hay se souvint alors du livre qu'il avait dans sa poche. Ne voulant pas trahir la confiance du juif, en avouant ce détail, il se contenta de dire « Quelle est cette histoire de livre magique ?» Sans sourire, comme il l'aurait cru, la grande-duchesse répondit évasivement « Le vieux Gunsky est un homme bizarre. On le croit sorcier et on lui attribue toutes sortes de pouvoirs qu'il n'a pas. » Il gravissait la colline derrière laquelle était situé le quartier élégant de Kiev, avec ses belles constructions de pierre, ses avenues larges et ses merveilleux vergers. J'aime beaucoup ce vieux bonhomme, reprit la grande-duchesse. Il vient quelquefois au palais apporter des soirées nouvelles, car c'est le plus grand marchand de la petite Russie, et nous causons. Il me raconte ses peines, pauvre Kensky. Sa fille ne lui donne pas beaucoup de satisfaction. En avez-vous entendu parler? Je croyais que c'était une nouvelle convertie. La jeune fille haussa les épaules. Le palais grand-ducal, de style byzantin, présentait au fond de l'avenue qui partait de la route un tel enchevêtrement de toits, de fenêtres et de tourelles qu'on aurait pu le croire bâti par 50 architectes différents. Lorsque les deux jeunes gens franchirent le portail, le grand-duc, qui paraissait les attendre, descendit le perron et vint à leur rencontre. C'était un homme de taille moyenne, très quelconque, portant un lorgnon et visiblement absorbé par quelque secrète préoccupation. Ah, oh, ma chère enfant, quelle matinée! Mais comment vous êtes-vous trouvée dans cette bagarre? Le commandant me téléphone à l'instant. Dirais-je, j'ai demandé sa démission. Par Saint Immolteste, je ne puis admettre que ma fille ait été mêlée à la populace, ne fût-ce qu'en passant. Et voilà le bon jeune homme qui est venu à votre secours. Le ton de ces paroles manquait de cordialité. Je vous remercie, continua le grand-duc. Je vous remercie beaucoup. Oh, il n'aurait fait aucun mal à la grande-duchesse, mais vous ne pouvez pas le savoir. Quant aux Juifs, il resta pensif. Je suis heureux d'avoir pu, de quelque façon, être utile à votre Altesse, répondit l'Anglais, très correct. Oui, interrompit nerveusement son interlocuteur. Allez, vous allez déjeuner avec moi, n'est-ce pas, Master? Monsieur Hay, acheva la jeune fille. Tout ceci avait été dit en anglais, chose plus surprenante puisque c'était la langue familière à la cour. Oui, ma soeur, acceptez mon invitation. J'insiste. Je suis sûr que vous avez été très chevaleresque, très bon. Irène, de persuader ce gentleman, je vous prie. Il tendit brusquement la main au jeune homme qui la prit en s'inclinant. Puis, sans un mot de plus ni un regard vers sa fille, le grand-duc tourna le dos et rentra dans le palais. Mon père ne vous paraît pas très hospitalier, dit la grande-duchesse en souriant, avec de nouveau sa petite lueur de malice dans les yeux. Eh bien, cette fois, c'est moi qui vous invite de sa part. Il leva les bras dans un geste de désespoir comique en indiquant ses vêtements râpés et défraîchis. Votre Altesse est mille fois bonne, mais je ne puis me présenter à la table du grand-duc dans cette tenue. Oh, rassurez-vous, vous ne verrez pas le grand-duc. Mon père invite, mais n'accepte jamais, et pour lui-même, il prend ses repas dans sa chambre. Ainsi, vous devrez vous contenter de ma présence, ajouta-t-elle d'un petit air provoquant. Il la fixa sans répondre, et c'est elle qui baissa les yeux. Pendant cette petite scène, Malcolm avait conscience que Bulba, raide derrière lui, ne jouait pas seulement un rôle de spectateur dans l'affaire de l'invitation à déjeuner. Le jeune homme se retourna légèrement et Irène, suivant son regard, fit signe au domestique d'avancer. Conduisez monsieur à une chambre d'amis, dit-elle en russe, et mettez un valet à sa disposition. À vos ordres, Altesse. Elle rentra dans le palais, suivie d'un pas moins rapide par Malcolm et Bulba. Ce dernier fit monter le jeune ingénieur par un large escalier couvert d'un épais tapis rouge. Ils enfilèrent ensuite un corridor percé de hautes fenêtres, traversèrent un palier et s'arrêtèrent devant une porte que ses dimensions pouvaient faire prendre pour l'entrée d'une salle du trône. Elle donnait en réalité dans un splendide appartement où les meubles et les ornements de métal argenté rivalisaient d'éclat. Le salon était somptueux, la chambre à coucher arrangée avec un goût exquis et la salle de bain qui faisait suite avait des murs recouverts de marbre. « Quel luxe !» murmura le jeune homme. « L'hospoda n'a pas d'ordre à me donner ?»« Non, Boulbard. » « Mais dites-moi donc !» Et Malcolm avait pris le ton familier que son expérience lui avait appris à adopter vis-à-vis des subalternes en Russie. « Dites-moi donc comment il se fait que votre maîtresse était seule devant le portail d'Israël Kensky alors que vous étiez en pleine foule à exciter les manifestants ?» La question abrupte fut peut-être désagréable à Boulba, mais il n'en laissa rien paraître et répondit froidement « Kensky est juif. La nuit de la Pentecôte, il prend du sang de petit enfant chrétien et en asperge son argent pour qu'il fructifie pendant l'année. Sa fille Sophia me l'a dit. « Bon, fais croire cela au moujik, répliqua Malcolm avec dédain. Mais vous, qui avez une certaine instruction, qui avez voyagé avec son Altesse dans le monde entier. » Cette supposition, lancée à tout hasard, tombait juste. Vous savez bien que ce sont des contes à dormir debout. Mais il a aussi un livre, Ospodar, qui contient le secret de se faire obéir de tous, même de ceux qui vous haïssent. Et en disant ces mots, l'homme avait un sourire cruel. Qui peut savoir où s'arrête le merveilleux dans le monde? On parle du diable, des anges, mais nous voudrions être certains de leur existence. Et pour cela, il nous faut ce livre que le juif a remis à votre seigneurie. » Master Ray le transperça du regard. « Mais le juif ne m'a pas remis de livre, Boulba. Je croyais que votre seigneurie... »« Vous vous êtes trompé, voilà tout, » dit Malcolm sèchement. Le domestique s'inclina et disparut, laissant le jeune Anglais dans un état d'esprit qui n'avait rien d'agréable. Il se trouvait en possession d'un livre convoité par des hommes capables d'aller jusqu'au meurtre pour s'en emparer. Rien que l'idée d'avoir son nom mêlé à cette histoire de sorcellerie le rendait furieux. Tout ceci était absurde, ridicule. Mais en Russie, même les choses les plus folles doivent être prises au sérieux. Il alla donner un tour de clé à la porte et tira de sa veste le fameux livre d'Israël Kensky. Le volume était assez gros, relié de cuir jaune et fermé par deux serrures de cuivre. Sur la couverture, une inscription en caractère russe était ainsi conçue. « Ce livre renferme le secret de la toute-puissance et les formules capables de déceler les cœurs des hommes et de fondre leur orgueilleuse résolution. » Dans un coin, à gauche, étaient tracés quelques mots hébreux, sans doute la signature du relieur. Après avoir retourné l'objet en tous sens, Masseret, cédant à la curiosité, essaya de glisser son ongle dans la tranche marbrée. Peine inutile, les feuillets étaient trop serrés par la solide fermeture. Alors, renonçant à en savoir davantage, il remit de l'ordre dans ses vêtements et descendit déjeuner. Ce fut une heure délicieuse. Outre Malcolm et la grande-duchesse, il y avait à table une dame russe prodigieusement fanée qui devina être le chaperon officiel d'Irène et un prêtre au visage morose qui bénit cérémonieusement le repas et sembla ensuite ravi en une muette contemplation. Mais, eût-il été sans convives, le jeune homme n'aurait eu d'yeux et d'oreilles que pour la maîtresse de maison. Elle avait échangé son amazone contre un costume bleu foncé, laissant voir la simple blousée de soie blanche largement échancrée par devant. Aucun bijou n'ornait son cou ni ses mains, et Malcolm fut agréablement frappé par cette absence de bagues en général et d'une certaine bague en particulier. Il vivait en plein rêve. Il est vrai que depuis le matin, tout n'était qu'invraisemblance, épisode de conte de fées. Ce soir, pensait-il, je dînerai prosaïquement à l'hôtel, et la grande duchesse va redevenir l'être inaccessible que je ne verrai plus, sauf dans les journaux illustrés. Cette conviction le rendit terriblement familier. Plus d'altesse, non, il riait de bon cœur lorsqu'elle plaisantait, et devenait à son tour plein de verve et d'entrain. Aussi le déjeuner lui parut-il trop court. La jeune fille se leva et tira sa montre. « Bonté divine, 4 heures déjà, et j'ai promis d'aller au tennis. » Il s'inclina devant Irène, avec un retour à ses manières cérémonieuses. « Votre Altesse a été vraiment trop bonne. » Elle l'arrêta dans son éloquence par son espiègle petite grimace. « Oh, je vous en prie, Master High, laissez-moi oublier pendant quelques heures que je suis une Altesse, et ne gâchez pas ce bon après-midi par vos grands mots. »« Alors, » dit-il en riant, « je vais vous appeler. » Mais il n'acheva point, il y eut une minute de gêne entre eux. L'arrivée inopinée du grand-duc les tira d'embarras. Cette apparition était évidemment extraordinaire à en juger par l'expression stupéfaite d'Irène, expression qui s'accentua encore devant l'amabilité de son père. Traversant le hall, il s'avança, la main tendue, vers Malcolm. « J'espère que vous n'allez pas nous fausser compagnie, Messaï. Je me suis montré un aussi détestable jusqu'ici. Et puis j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes bien l'ingénieur délégué de l'Ukraine Oil Company. Parfait. Eh bien, j'ai justement du pétrole dans mes domaines de l'Oural qui n'a pas encore été exploité. » En parlant, il avait passé son bras sous celui du jeune homme et l'entraînait dans le jardin, lui ôtant toute possibilité de terminer ses adieux à Irène. Celle-ci les vit sortir sans déguiser l'étonnement profond que lui causait l'attitude de son père. Chapitre 9. La main mystérieuse. Une heure plus tard, lorsque Irène revint du tennis, elle trouva le grand-duc visiblement excédé, mais faisant un effort héroïque pour paraître comprendre l'enthousiaste dissertation de Malcolm sur l'avenir de l'industrie pétrolifère. En voyant arriver sa fille, Yaroslav se leva avec empressement et vint à elle. « J'ai persuadé à M. Hay de dîner avec nous ce soir et j'ai fait chercher sa valise à l'hôtel. C'est un causeur bien intéressant, ma chérie. » Et d'un pas précipité, il s'en alla. La jeune fille, assise sur le siège, restait vide. « Master Hay, » dit-elle souriante, « vous êtes un homme extraordinaire. »« Mon Dieu, je l'ai entendu dire. » Malcolm remplit son verre au samovar. « Vous avez aussi une bonne opinion de vous-même, semble-t-il, » continua Irène très calme. Il faudra d'abord savoir pourquoi je vous parais extraordinaire, répliqua-t-il sur un ton de badinage qu'il avait adopté au déjeuner. Bien parce que vous avez charmé mon père. Peut-on savoir quel sortilège vous avez employé? Oh, c'est peut-être tout simplement à cause du livre, dit-il avec malice. Elle sauta sur ses pieds comme frappée d'une idée subite. « Vous avez le livre d'Israël Kensky ?» murmura-t-elle horrifiée. Il fit signe que oui. « Ici avec vous ?»« Ici même. » Et Master Hay frappa sur sa poche. La jeune fille se rassit lentement et Malcolm crut l'avoir tremblée. « Je me demande lequel de vous deux a été le plus fou, lui de vous donner le livre ou vous de le prendre. La maison de mon père est la seule de Kiev où vous soyez en sûreté, et encore. » Elle s'arrêta et secoua la tête. « Sans doute votre vie ne court aucun danger, mais oh, je préférerais que le livre fût ailleurs. » À partir de ce moment, elle ne fit aucune allusion ni à son père, ni à au livre, et lorsque, un peu plus tard, Mr. Hay est descendu pour dîner, il avait chassé de son esprit toute préoccupation désagréable. Les invités réunis étaient nombreux. Il y avait deux évêques, une grande quantité de popes, plusieurs dames couvertes de bijoux, un ou deux officiers et l'inévitable duègne. Malcolm fut présenté à tous, mais un seul le frappa. Le colonel Malinkoff, qu'il devait retrouver plus tard. À sa grande surprise, on avait donné au jeune homme la place d'honneur à la droite du grand-duc, mais cette distinction ne le réjouit guère, car Irène était à l'autre bout de la table. Elle paraissait soucieuse et répondait par monosyllabes à ses voisins. Par contre, le grand-duc était loquace, et bientôt la conversation roula sur les événements de la matinée. Après diverses réflexions au sujet de l'émeute, le maître de maison fit cette soudaine remarque. « Le danger, c'est qu'Israël Kensky pourrait très bien user de ses sortilèges contre la Sainte Église. » Il y eut un murmure approbateur parmi les barbes noires, et Malcolm ouvrit de grands yeux. « Votre Altesse ne croit certainement pas que ce juif est doué d'un pouvoir occulte. » « Mais si, répliqua le grand-duc, puisqu'il y a des miracles reconnus par l'Église, pourquoi n'y aurait-il pas d'autre dû à la puissance des ténèbres ?»« Pour moi, dit un gros évêque, je suis persuadé que ce livre est le pendant de celui qui fut jadis dénoncé et publiquement condamné par saint Basile. Cette œuvre avait été inspirée par Satan et contenait les règles au moyen desquelles le magicien pouvait enchaîner dans une obéissance absolue l'âme qu'il avait choisie. Tous ceux qui l'entendirent se signèrent par trois fois, et chacun voulut dire son mot au sujet du livre diabolique. Le volume en question était à 6 pouces du grand-duc dans les basques de l'habit de Malcolm, et ce détail donnait un certain piquant à la conversation. Il est mieux valu que le peuple réussisse ce matin à nous débarrasser de ce pauvre diable, dit pensivement Yaroslav, et il lança un coup d'œil scrutateur vers le jeune Anglais. Celui-ci ne donna aucun signe de probation ni de blâme, mais il fut heureux de voir se terminer le repas et de pouvoir enfin échanger quelques paroles avec Irène. Les invités avaient commencé à partir. « Mr. Hay, dit la grande-duchesse à voix basse, je vais remonter et nous ne nous reverrons plus. Avant que je m'en aille, faites-moi une promesse. »« Mais tout ce que vous me demanderez, Altesse, est promis d'avance. »« Eh bien, rentrez chez vous le plus tôt possible, et si je vous envoie un mot, quittez la Russie sans délai. »«
Je suis stupéfait de ce que vous me dites. »
« Monsieur Hay, dit-elle, toute vibrante d'émotion, vous vous êtes engagé dans une aventure dont vous ne pouvez pas sortir sans dommage. Quoi qu'il advienne, vous aurez à souffrir, mais je voudrais que vous vous tiriez d'affaire avec honneur. »«
Oh, je ne vous comprends pas. »«
Alors dois-je être plus clair? D'ici un ou deux mois, à moins que quelque chose ne survienne pour donner aux esprits une direction différente, vous serez déclaré suspect. Le fait que vous possédez le livre est déjà connu.
Oui, je le sais.
Et par qui? Demanda-t-elle vivement.
Par votre domestique Bulba.
Irène porta sa main à ses lèvres comme pour étouffer un cri. À ce moment, le grand-duc appela son hôte. Les invités étaient réduits à une demi-douzaine.
« Monsieur Ray, dit-il, vous allez prendre un peu de café et goûter notre merveilleux cumel russe. Vous ne trouverez son pareil dans aucune autre partie du monde. »
Malcolm but sa tasse de café, puis la liqueur de feu et reposa le petit verre sur le plateau. La jeune fille avait disparu. Une demi-heure après, il remonta à son tour, ferma la porte à clé, ayant décliné les offres de service du valet de chambre et lentement se mit à se déshabiller.
Ayant mis son pyjama, il s'était assis au pied de son lit et se rendit compte, seulement au bout d'un temps assez long, qu'un délicieux engourdissement l'envahissait. Il essaya de se mettre debout et chancela. « Adopé !» dit-il en se rasseyant. Une faible partie de son cerveau restait en activité, mais cette partie-là travaillait ferme. On avait mêlé un narcotique, soit au café, soit au cumel. C'était la seule explication à l'état dans lequel il se trouvait. Malcolm tomba sur sa couche et ramena les couvertures avec la ferme intention de se tenir éveillé. Peu à peu, le soporifique acheva son œuvre et une lourde torpeur envahit le jeune homme. Il avait cependant, par intervalle, des moments de complète lucidité et, sans pouvoir faire un mouvement, se rendait compte de sa déplorable situation. Environ une heure plus tard, il eut l'impression d'être entièrement réveillé. La chambre était baignée d'une douce lumière grise, car c'était une nuit de pleine lune. Il essaya de se lever, peine perdue. Le fait de rouler sa tête de droite et de gauche était pour lui la limite de l'effort. Tandis que son regard errait autour de la chambre, la porte s'ouvrit et se referma sans bruit. Quelqu'un était entré et traversait doucement la pièce. Si Malcolm avait pu, il aurait crié. C'était Irène. Elle avait passé un léger peignoir sur sa robe de nuit et tenait une lampe électrique. Tout droit, elle se dirigea vers la chaise où il avait déposé ses vêtements, en retira quelque chose et reprit le chemin par où elle était venue. Au pied du lit, elle s'arrêta une seconde comme indécise, puis se rapprocha de Malcolm, qui n'aurait pu ouvrir ni fermer ses yeux mi-clos pour tout l'or du monde. Il la voyait, silhouette irréelle, éclairée par la lune. Sa main blanche tenait le livre, et comme dans un souffle, elle murmura « Adieu, pauvre Mr. Hay !» Et se baissant brusquement, elle effleura sa joue d'un baiser et passa. Comme elle entr'ouvrait la porte, un autre jet de lumière électrique la fit soudain reculer. Le nouvel arrivant fit un pas dans la chambre et tourna le commutateur. Ils se virent en pleine lumière, dressés face à face. La grande jeune fille impérieuse, une moue de mépris aux lèvres, et le colosse au nez tordu. Bulba portait une vieille robe de chambre retenue par une cordelière multicolore. Il avait les pieds nus et dissimulait dans sa main gauche un long couteau effilé. À la vue de la grande duchesse, il eut un haut le corps. L'embarras se peignait sur sa large face. « Vous, c'est vous, Altesse ?» balbutia-t-il. « Mais où est le juif ?» Irène ne répondit pas. Pesterey voyait sa poitrine se soulever un peu plus vite et sa main serrer le livre contre elle sous la soie transparente du peignoir. Le regard de Bulba alla de la jeune fille à Malcolm et de Malcolm au lourd rideau pendant de chaque côté de sa fenêtre. « Mais où est le juif ? » répéta-t-il avec impatience. « Il a quitté sa maison et on l'a vu traverser les pelouses dans le parc. » « Arrière, esclave !» s'écria Irène. Mais déjà, il l'avait saisi par le bras. Après une courte lutte, le livre fut arraché à la grande duchesse. Malcolm, parfaitement conscient, quoiqu'immobilisé par la drogue, ne perdait rien de cette scène et souffrait d'une véritable agonie en voyant la jeune fille aux prises avec le monstre. Mais pourquoi n'avait-elle pas appelé à l'aide ? Mais qu'aurait-on dit en la trouvant, elle, petite fille d'empereur, dans la chambre d'un étranger au milieu de la nuit ? Bulba caressait le livre de ses gros doigts rugueux, le couvrant des yeux avec passion. Il essaya d'en arracher les fermetures, mais ne pouvant y parvenir, jeta un regard soupçonneux vers la grande duchesse. Sans rien dire, il se rapprocha d'une ampoule lumineuse appliquée au mur près de la fenêtre, et après un nouvel examen, « Oh, Altesse !» s'écria-t-il, « est-ce vous qui avez fait dire à Kensky de renforcer les serrures ?» Il ne put continuer. Une main venait d'apparaître derrière le rideau, tenant un mouchoir jaune. Irène étouffa un cri. Le mouchoir fut appliqué sur la figure de Boulba qu'il recouvrit du front au menton. Pendant quelques secondes, l'homme sembla paralysé, puis il jeta au loin le lambeau d'étoffe et se mit à gratter désespérément la substance argileuse collée à sa face. « Damnation !» hurla-t-il, et laissant tomber le livre, il trébucha en avant, fou de douleur. Irène s'enfuit par la porte entrouverte, car on entendait maintenant des pas précipités à l'extrémité du corridor. Peu de minutes après, un groupe de serviteurs apparut, et parmi eux le grand-duc, qui seul était entièrement vêtu. « Boulba, qu'y a-t-il ? »
« Le livre, il est à moi, regardez par terre !»
Mais le livre avait disparu.
« Mais où est-il, Boulba? Qu'en avez-vous fait, mon brave Boulba ?»
répéta son maître d'une voix tremblante. « Montrez-le-moi.
Est-ce qu'on vous a fait du mal? Oh Dieu, qu'il a l'air de souffrir !»« Cherchez avec nous, Boulba, vous voyez bien que... »
« Comment pourrais-je voir ?» rugit le malheureux en se tordant de souffrance. « Puisque je suis aveugle !»